Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 28 octobre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Les Tanzaniens ont voté ce mercredi pour élire leur président et les députés. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara accuse les partisans de la désobéissance civile d'inciter les jeunes à aller vers la mort. La deuxième vague de Covid-19 a fait plus de 500 000 contaminations dans le monde en une journée. Les sports, ce sera juste après le journal. On commence par la présidentielle aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. Ce mercredi, Donald Trump avait prévu deux meetings de campagne en Arizona, tandis que Joe Biden a voté dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. Mardi, M. Trump a tenu des rassemblements dans trois États et M. Biden était en Géorgie. Jacques Aristide revient sur la journée de mardi.
De Washington au Nebraska, en passant par le Michigan et le Wisconsin, c'est le président Trump qui avait la journée de meeting la plus dense. Covid, 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 les médias fake news n'ont que ce mot à la bouche, a-t-il déclaré à West Salem, une bourgade dans l'état clé du Wisconsin, dans le nord du pays. Plus tôt, dans le Michigan, un autre état pivot, le président sortant avait dit devant une foule de partisans que les électeurs auront le choix le 3 novembre entre son plan pour tuer le virus ou le plan Biden pour tuer le rêve américain.
Je vais offrir une prospérité record, une croissance extraordinaire de l'emploi et un vaccin sûr qui éradique le virus et met rapidement fin à la pandémie et nous faisons cette dernière courbe.
You know that, right? We're going to have the vaccine anyway, with or without it. We're making the turn. Normal life.
La vie normale reprendra complètement. C'est tout ce que nous voulons, une vie normale. Revenir 7 mois en arrière, la meilleure économie que nous n'ayons jamais eue.
Son rival, Joe Biden, s'est contenté, lui, d'un seul État, celui de la Géorgie, dans le sud conservateur. Dans un discours en extérieur, devant quelques invités à distance, les uns des autres à Warm Springs, l'ancien vice-président de Barack Obama a déclaré que s'il était élu, il y aurait un changement de priorité. Car nous agirons dès le premier jour de ma présidence pour reprendre le contrôle du Covid, a ajouté Joe Biden.
Nous avons cessé de voir la dignité les uns dans les autres. Nous avons cessé de nous montrer du respect. Trop d'entre nous passent plus de temps à crier qu'à écouter. Plus de temps à se battre qu'à travailler ensemble. Plus de temps à diaboliser et dénigrer les autres qu'à les élever.
Joe Biden s'est ensuite rendu dans la plus grande ville de Géorgie, Atlanta, pour un meeting en drive-in auquel ont assisté ses supporters depuis leur voiture. La journée d'hier a également été marquée par le premier déplacement de campagne pour la première dame Melania Trump dans l'état très disputé de Pennsylvanie. L'ancien président Barack Obama a pour sa part donné un discours de soutien hier à son ancien vice-président depuis Orlando, en Floride.
En Afrique du Sud, les citoyens observent avec intérêt la campagne américaine grâce à des journalistes qui expliquent les enjeux de cette présidentielle. Anita Powell à Johannesburg fait le tour de la question. Le récit est de Dilédico.
Cela fait 12 ans que le journaliste sud-africain Sherwin Brice Pease s'attelle à l'intéressante tâche d'expliquer de la mégapole new-yorkaise l'Amérique et la politique américaine aux téléspectateurs sud-africains. Relater les informations de l'année 2020 est cependant un nouveau défi. La pandémie et l'élection présidentielle ont fait que même pour des journalistes américains, il est devenu difficile de relayer l'information. Brice Pease explique que que la difficulté est universelle.
Le déficit de vérité que nous avons connu avec cette Maison Blanche, par exemple, au niveau de l'équipe médicale du président après son diagnostic du COVID-19, fait que vous n'obtenez pas nécessairement le factuel de cette Maison Blanche. Nous devons donc toujours, en quelque sorte, regarder les choses à travers un prisme. Qu'a dit le président? Est-ce réellement vrai? Cela complique la vie des journalistes ici.
Bryce Pease consacre sa couverture électorale sur la course à la Maison Blanche et sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Il pense que son public préfère le candidat démocrate Joe Biden dans cette élection, en grande partie à cause du lien de Biden avec l'ancien président Barack Obama et du choix de Kamala Harris comme colistière. Le journaliste sud-africain pense également que les commentaires péjoratifs sur l'Afrique attribués au président Donald Trump l'ont rendu impopulaire sur le continent. À Johannesburg, Brooke Spector, diplomate américain à la retraite devenu écrivain, tente également d'expliquer la politique américaine au public sud-africain dans le journal Daily Maverick. Cette élection, dit-il, l'a amené à explorer des thèmes inhabituels dans sa chronique.
Il y a environ un mois, j'ai écrit une chronique qui exhortait les groupes de surveillance internationaux à observer les élections américaines afin qu'elles restent honnêtes, libres et équitables.
Il ne s'agit pas là d'une opinion isolée, car l'Union africaine a suggéré une mission d'observation électorale aux États-Unis. Mais cette idée ne semble pas s'être concrétisée. Cependant, de petites équipes d'États africains prévoient leur propre mission d'observation. Selon l'analyste Lys Lou Vaudran, la présidentielle américaine pourrait influencer le comportement futur des nations africaines.
Au-delà d'un changement de mentalité, il y a un changement de paradigme, dans le sens où les pays et les gouvernements africains se sentent toujours, vous savez, désavantagés, surtout de la gouvernance à la réponse au nouveau coronavirus. Ce que nous avons constaté ces 6 derniers mois, c'est qu'en fait, même les pays développés se sont retrouvés en difficulté. Leurs modèles de gouvernance sont également menacés.
Bryce Pease explique que c'est un moment important pour couvrir l'actualité américaine.
C'est un moment inhabituel pour les États-Unis et je pense que nous devons reconnaître cela. Le fait que le processus électoral de ce pays modèle soit remis en question fait réfléchir beaucoup de gens. Donc, je ne sais pas comment l'Amérique sera transformée à l'issue de ces élections. La question est de savoir quel genre de leadership il y aura après le 3 novembre, je pense que ce sera déterminant pour la suite.
How America comes out of this, the question is, what kind of leadership will you have post November 3rd? I think that will be determinative of where we go here.
Quelle que soit la direction que prendront les États-Unis à la suite des élections, les observateurs africains, tout comme Sherwin Bryce Pease, continueront à regarder l'Amérique avec intérêt.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Tanzaniens ont voté ce mercredi pour élire leur président et les députés. L'opposition dénonce déjà des fraudes. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le principal opposant, Tundu Lissou, parle d'irrégularités de grande ampleur qui menacent selon lui l'intégrité du scrutin en Tanzanie. Il cite notamment le refus de laisser des observateurs entrer dans les bureaux de vote et la découverte d'urnes remplies, notamment à Dar es Salaam. Si cela continue, une action démocratique de masse sera la seule option pour protéger l'intégrité de l'élection, prévient M. Lissou. L'opposition et plusieurs observateurs s'inquiètent du fait que plusieurs membres de la commission électorale ont été nommés par le chef de l'État lui-même. Surnommé le bulldozer, le président John Magufuli brigue un second mandat. 15 candidats sont en lice, mais le scrutin devrait se résumer à un duel avec M. Tundu Lissou, récemment rentré en Tanzanie après avoir échappé en 2017 à une tentative d'assassinat qui a nécessité 3 ans de soins et de convalescence à l'étranger.
Le pouvoir guinéen a allégé le dispositif sécuritaire en place depuis la présidentielle, notamment autour du domicile du chef de l'opposition, Sélou Danène Diallo, tandis que le président Alpha Condé, proclamé vainqueur par la commission électorale, a effectué sa première sortie en 10 jours. Monsieur Diallo avait proclamé sa victoire dès le lendemain du scrutin. Des heurts avaient ensuite éclaté une semaine durant. Deux djihadistes mauritaniens et maliens ont été condamnés à mort par la justice malienne pour avoir commis les attentats de l'hôtel Radisson Blue et du restaurant La Terrasse à Bamako en 2015. Après deux jours d'un procès placé sous haute sécurité, la cour d'assises antiterroriste avait rendu un verdict de culpabilité envers Fawaz Ouldamed et son co-accusé Sadou Chaka. En Algérie, fin de la campagne du référendum sur la révision de la Constitution. Près de 25 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer dimanche sur un texte censé fonder une nouvelle république et répondre aux aspirations du Irak. Le président Abdelmadjid Tebboune, qui a proposé la réforme, est hospitalisé depuis mardi dans un centre militaire d'Alger, après avoir eu des cas de Covid-19 dans son entourage. La deuxième vague de Covid-19 a fait plus de 500 000 contaminations dans le monde en une journée. L'Europe est le continent où la pandémie progresse le plus rapidement, mais les États-Unis restent le pays le plus touché. Le point avec Eric Manirakiza.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est placé en quarantaine après avoir appris qu'un convive à un dîner de charité auquel il participait a été testé positif au coronavirus. Le président Emmanuel Macron pourrait annoncer mercredi soir un reconfinement généralisé en France et l'Allemagne envisage également de nouvelles restrictions drastiques pour tenter de contenir la propagation du virus. En Belgique, les hospitalisations ont même atteint le pic de la première vague au début du printemps. L'Italie a déjà imposé un couvre-feu dans plusieurs grandes régions. En Espagne, la grande majorité des médecins du service public ont entamé mardi une grève nationale, la première en 25 ans, pour réclamer plus de reconnaissance. La Commission européenne va engager 100 millions d'euros pour l'achat et la distribution de tests rapides. Le Canada a franchi mardi soir le cap des 10 000 morts. Les États-Unis déplorent plus de 225 000 morts sur près de 9 millions de cas. L'Iran a de son côté enregistré la mort de 415 personnes en 24 heures et reste le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient. À l'inverse du reste du monde, les commerces de Melbourne dans le sud de l'Australie ont rouvert après plus de 3 mois de fermeture. Depuis 2 semaines, le nombre quotidien de nouveaux cas dans la métropole n'est que de 3.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le tableau des éliminatoires de l'Afrobasket 2021 affiche désormais complet. Le Cap-Vert et Madagascar ont arraché les 2 derniers tickets à l'issue des derniers tournois de pré-qualification. À Yaoundé, les Cap-Verdiens ont fait un parcours sans faute, disposant du Tchad 90 à 73, puis du Soudan 91 à 85. Le Cap-Vert rejoint ici le groupe E, déjà composé du Maroc, de l'Égypte et de l'Ouganda. Pour sa part, Madagascar a pris son ticket à Harare devant la Zambie et le Zimbabwe. Après 2 victoires contre ces pays, les Malgaches intègrent le groupe A en compagnie de la Tunisie, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Pour les autres groupes, on retrouve le Sénégal, l'Angola, le Mozambique et le Kenya. Dans le groupe B, la poule C est composée du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale. Le Nigeria, le Mali, le Rwanda et l'Algérie forment le groupe D. Le tournoi de qualification pour l'Afrobasket 2021 commence le mois prochain à Kigali et au Caire. Les 3 meilleurs de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue l'an prochain à Kigali, au Rwanda. Athlétisme, l'Algérien Taoufik Makhloufi, champion olympique 2012 du 1500 mètres, a dénoncé une campagne calomnieuse alors que son nom a été cité par la chaîne de télévision France 3 dans une enquête pour possession de matériel pouvant servir au dopage. « Je n'ai jamais fait l'objet d'un contrôle positif. Je suis un athlète propre et ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer », a déclaré Taoufik Makhloufi. Le nom de Taoufik a été cité dans un reportage diffusé dimanche dans l'émission Stade 2 à propos de la découverte en septembre dernier d'un sac contenant des seringues, des diluants pour injection et perfusion, des compléments alimentaires et une pompe pour perfusion près de Paris, où l'athlète algérien s'entraîne parfois. Selon Stade 2, une enquête préliminaire a été ouverte par le pôle santé du parquet de Paris. Football, la star portugaise de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, en quarantaine depuis 2 semaines après des tests positifs au Covid-19, est absent de la liste des joueurs convoqués pour le choc contre le FC Barcelone de Lionel Messi ce soir en Ligue des Champions. À suivre aussi, toujours ce soir, Manchester United, RB Leipzig, FC Séville, Rennes, Başakşehir, PSG ou encore Krasnodar, Chelsea.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En Guinée, c'est le calme précaire après une mission internationale qui a bouclé son séjour mardi en appelant les Guinéens à la retenue et à préserver la paix. Déclaré vainqueur par la CENI avec 59% des voix, le président Alpha Condé fait face à la contestation de son principal rival, Sélouda Diallo, qui continue de revendiquer sa victoire. Le pays retient son souffle en espérant une issue heureuse de la crise. Le point avec Zakaria Camara à Conakry.
Après plusieurs jours de violence, les tensions ne sont pas complètement retombées. Dans la capitale, on constate une reprise progressive des activités. Les Guinéens restent nombreux, marqués par l'ampleur des violences, à l'image de Aminata.
Par endroits, il y avait des pagailles, il y avait des violences. Et du coup, tu avais peur de ne pas être attaqué par n'importe quelle personne.
Arrivé dimanche à Conakry, la mission conjointe CDAO, Union africaine et Nations unies a invité les candidats à saisir la Cour constitutionnelle pour le règlement des contentieux électoraux. Dans la capitale, la crise post-électorale ne laisse personne indifférent.
Il faut que les différents acteurs politiques, les différents leaders en compétition essaient de calmer leurs militants, essaient de faire comprendre à leurs militants que c'est la loi qui prévaut et que les voies de recours légales sont utilisables, explorables pour tout un chacun.
Aujourd'hui, ce qu'il faut pour sortir de cette situation qui est très très critique d'ailleurs, c'est qu'il faut s'accorder le temps de parole et que chacun puisse mettre sur la table sa préoccupation et qu'on essaie de reconsidérer les positions pour en tout cas se parler en tant que Guinéen.
Premièrement, il faut une prise de conscience collective au niveau de tous les citoyens guinéens. Cette prise de conscience doit nous permettre de comprendre que la Guinée constitue notre bien commun et que pour sa préservation, il faut la participation de tout un chacun. Deuxièmement, il faudra que la justice joue pleinement son rôle.
Au terme d'une mission de 72 heures à Conakry, les émissaires de la CDAO, de l'Union africaine et des Nations unies ont dit avoir pris note de l'annonce des résultats provisoires par la CENI. La délégation demande aux autorités guinéennes de diligenter des enquêtes pour faire la lumière sur les violences post-électorales. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission d'observation électorale de la CDAO à Conakry.
La mission conjointe a aussi demandé aux autorités guinéennes de diligenter les enquêtes pour faire la lumière sur les violences afin de traduire les auteurs en justice. Elle demande aux autorités de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité agissent avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations. 8. La mission conjointe a également observé les dispositifs sécuritaires particuliers mis autour de la résidence du candidat de l'UFDG, M. Sélouda Diallo, ainsi que des locaux de son parti suite à sa déclaration sur les résultats de l'élection présidentielle. La mission exhorte les autorités guinéennes à lever ce dispositif dans la perspective d'un dialogue inclusif.
Ce mercredi, les forces de sécurité qui occupaient les alentours du domicile de l'opposant Sélouda Diallo ont finalement quitté les lieux. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La République du Congo célèbre du 27 au 29 octobre le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle aux Africains pour la libération de la France et le manifeste de Brazzaville qui a créé le Conseil de défense, premier organe de gouvernement de la France libre. Réunis en colloque dans la capitale congolaise, les présidents des pays africains qui avaient rallié sa cause en 1940 ont rappelé à la France son devoir d'accompagner l'Afrique dans ses multiples combats. Un report.
À l'ouverture de ce colloque qui va durer jusqu'à mercredi, le président Denis Sassou Nguesso appelle la communauté internationale à donner plus de la voix à l'Afrique.
Une fois pour toutes, la part africaine au mouvement universel des idées, la contribution africaine aux grands événements de notre temps, la participation africaine à la prise des décisions planétaires. L'Afrique ne peut indéfiniment être présentée aux yeux du monde, toujours affublée du masque hideux de l'arriération et de la misère.
80 ans après l'appel du général français Charles de Gaulle, lancé ici à Brazzaville pour remobiliser les troupes françaises en déroute, mais aussi enrôler les Africains, Brazzaville a voulu rappeler le rôle que l'Afrique a joué dans la libération de l'Hexagone. En guise de reconnaissance, le président Félix-Antoine Tshisekedi demande à la France de l'aider à apaiser l'Est de la RDC en proie depuis des années à d'interminables conflits armés.
La République démocratique du Congo est confrontée à l'Est du pays à un terrorisme aveugle auquel s'adonnent des bandes armées qui font subir de violences sans nom aux populations et particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, tantôt violées, tantôt enterrées vivantes, tantôt décapitées. Il est difficile pour un pays de mener seul ce combat. Et la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ensemble ce fléau de notre siècle.
Poursuivant dans la même logique, le Tchadien Idriss Déby Itno appelle au renfort de la France pour mettre fin aux attaques djihadistes dans le Sahel.
Mener une lutte contre le terrorisme dans cette vaste étendue du Sahel est un défi majeur à relever. Il est donc urgent de mettre l'accent sur une conjugaison d'efforts et de moyens entre nos États et la France.
Présent à cette célébration, en lieu et place du président Emmanuel Macron, le ministre Jean-Yves Le Drian annonce l'organisation d'un partenariat plus équilibré entre la France et l'Afrique.
Chers amis, je suis venu ici à Brazzaville avec une certaine idée de ce que nous pouvons faire ensemble, la France et l'Afrique. Un partenariat qui construit un rapport plus apaisé à notre passé, mais un partenariat plus équilibré.
À Brazzaville, plusieurs Congolais sont restés mitigés quant à l'intérêt d'une telle célébration. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La pandémie de Covid-19 continue d'avoir des effets dévastateurs sur l'économie et l'emploi dans la plupart des pays. Au Kenya, le gouvernement affirme que près de 2 millions de personnes ont perdu leur travail. De nombreux Kenyans comptent désormais sur le secteur informel pour subvenir à leurs besoins. Un reportage de Mohamed Youssouf à Nairobi, le récit est de Michel Joseph.
C'est le 10e emploi que Paul Kenyé, 32 ans, occupe depuis la mi-mars. À cause de la pandémie, il a perdu son emploi régulier de cuisinier dans une école.
On ne fait ce travail dans la construction que lorsqu'on n'a rien d'autre à faire. Le travail dans le bâtiment peut s'arrêter à tout moment, mais mon travail précédent était bon.
Il gagne 10 dollars par jour et c'est mieux que rien. Silas Ngandu, lui, a perdu son emploi dans la restauration. Le gouvernement a émis des restrictions sévères sur les services de restauration et les débits de boissons pour limiter la propagation du coronavirus.
C'est un travail journalier. Vous pouvez venir demain et on vous dit qu'il n'y a pas de travail. Et vous pourrez revenir le lendemain. Ce n'est pas un travail permanent. Si je viens en retard, il donne le boulot à quelqu'un d'autre. Et vous tentez à nouveau votre chance le surlendemain.
Le Bureau des statistiques du Kenya rapporte que plus de 1,7 million de personnes ont perdu leur emploi rien qu'entre avril et juin. Les employeurs affirment que les entreprises et les fournisseurs ont été durement touchés. Eda Chepkoech est épicière.
It has affected our sales, our daily business, huh?
Cela a affecté nos ventes, nos activités quotidiennes. Avant, nous gagnions beaucoup d'argent. Nous avions beaucoup de clients. Maintenant, les affaires ont diminué.
La Fédération des employeurs du Kenya, qui représente environ 1 900 entreprises, affirme que la pandémie a effacé une grande partie des gains d'emploi réalisés ces dernières années dans le secteur privé. Jacqueline Mugo, présidente de la Fédération des employeurs du Kenya.
Nous avons examiné le nombre d'emplois créés dans l'économie formelle depuis 2015 et le chiffre que nous avons est 218 800 emplois créés entre 2015 et maintenant. Sur les 218 800 emplois créés, 173 743 emplois ont été perdus. Cela signifie que 80% des emplois ces dernières années dans le secteur informel ont été détruits par le COVID-19 au cours des 5 derniers mois.
Les employeurs préviennent qu'au moins 1 million de personnes supplémentaires risquent de perdre leur travail dans les mois à venir. Et pour les gens comme Paul Kenyet, la recherche d'un emploi fixe se poursuit.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Chaque année, environ 300 000 enfants d'Afrique subsaharienne naissent avec la drépanocytose, une maladie causée par une ancienne mutation de l'un des gènes responsables du développement de l'hémoglobine. La maladie cause d'atroces douleurs ainsi que des dommages aux organes et au système immunitaire. Le dommage au système immunitaire survient très très tôt, si bien que les enfants qui ne reçoivent pas de soins appropriés peuvent mourir d'infections bactériennes très rapidement, a expliqué Brett Girouard, pédiatre et amiral dans le service américain de santé publique, actuellement secrétaire adjoint au ministère américain de la Santé. En effet, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, on estime que 80% des enfants atteints de la drépanocytose vont mourir avant leur 5e anniversaire. Au plan international, les États-Unis œuvrent avec des pays comme l'Ouganda, qui vient juste de publier un plan national de traitement de la drépanocytose. Le plan ougandais est réellement un jalon, a dit l'amiral Girouard. C'est un plan spécifique, le coût a été entièrement évalué, c'est fait chronologiquement. C'est bien que nous savons ce qui doit être fait et quand cela doit l'être. C'est donc un plan robuste qui peut servir d'exemple au reste du continent. Il est important de noter que ce plan a été élaboré par l'Ouganda pour le peuple ougandais, a souligné l'amiral Girouard.
Ce que l'Ouganda a fait, c'était de comprendre la situation à l'intérieur du pays. Étant donné que dans plusieurs régions, la maladie est plus prévalente que dans d'autres, ce sont des sortes d'accidents génétiques pour celui qui vit dans ces zones et comment ça se développe avec le temps. Ainsi, c'est un plan ciblé. Cela commence dans les endroits subissant le pire impact de la drépanocytose. Ainsi, les autorités vont d'abord se concentrer sur 75 districts sanitaires, puis étendre l'opération. L'Ouganda a accepté que son plan soit partagé avec d'autres pays à travers l'Afrique. Il faudra l'adapter aux besoins, à la population et à la situation économique de chaque pays. Mais cela peut se faire facilement, a assuré l'amiral Girouard, ajoutant « La première étape est d'avoir un plan ». La seconde est vraiment de l'exécuter. Mais nous sommes dans une bonne position pour élaborer le plan et le mettre en œuvre.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.